je suis en route vers l'aventure. Je descends dans un ravin que l'on appelle la Petite Ceinture. C'est une sorte de tunnel à ciel ouvert qui fait le tour de Paris. Autrefois, avant que le métro arrive, c'était une ligne de train qui permettait de desservir les passagers aux quatre coins de la capitale. Mais depuis l'arrivée du métro, cette ligne est complètement abandonnée et il n'y a plus que les rails au milieu de la végétation. Aujourd'hui, c'est un chemin de promenade très prisé des Parisiens, qui est traversé par de très nombreux tunnels, parfois très longs et très sombres. Cependant, la plupart d'entre eux sont clôturés et emmurés. Ils sont donc inaccessibles et interdits. Enfin, ça n'empêche pas des milliers de jeunes qui, comme moi, font des explorations urbaines et trouvent toujours un moyen d'y entrer. C'est justement dans ces tunnels que se cachent des accès pour les catacombes. Ce sont des petits trous dans le sol, pas plus larges qu'une bouche d'égout, qui permettent de s'introduire dans les sous-sols de Paris. Une fois à l'intérieur du tunnel, je suis complètement plongé dans le noir. C'est le moment d'allumer ma lampe torche. C'est un endroit que je connais bien. Je suis déjà venu ici de nombreuses fois. Je marche durant des centaines de mètres. Il y a plein de cailloux partout sur le sol. Il faut d'ailleurs faire attention à ne pas trébucher dans les anciennes rails du train ou de ne pas tomber dans l'une des nombreuses canalisations ouvertes. Je marche encore et encore, déjà depuis une heure. Je regarde ma montre, il est minuit passé. C'est un endroit très humide. Le bruit de mes pas résonne à des kilomètres. Je suis tout seul, mais pourtant j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui marche pas très loin de moi. Je regarde tout autour à l'aide de ma lampe torche. Il n'y a personne. Pourtant, quand je commence à marcher, j'ai clairement l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui me suit. Une fois de plus, je me retourne, mais je ne vois rien. Nous sommes en pleine nuit. Je suis fatigué, je suis stressé. C'est sûrement une fois de plus mon imagination qui me joue des tours. Nous y sommes. Sur le mur, j'aperçois une flèche taguée qui indique une des entrées des catacombes. C'est dans ce trou que je vais devoir passer pour pouvoir m'y infiltrer. Il ne faut pas être claustrophobe. La descente fait au moins une vingtaine de mètres et n'est pas plus large que mon corps. La remontée est aussi très difficile. Il faut être très agile. Je lance mon sac à dos dans le trou en premier, puis ensuite vient mon tour. Je glisse sur quelques mètres et me voilà enfin arrivé au fond des catacombes. La dernière fois que j'y suis allé, je ne suis pas passé par cette entrée. C'est donc pour moi une découverte. Les catacombes font plus de 300 km sous Paris, et une grande partie reste encore inconnue et inexplorée. Il y a certains endroits des catacombes qui sont réputés avoir une malédiction, et dans lesquels il est déconseillé d'y aller, même pour les plus courageux. Les quelques personnes qui y sont allées n'en sont jamais revenues. Au fur et à mesure que je m'infiltre dans les tunnels, j'entends au loin une musique sourde. Ça ressemble à de la musique électro très forte qui résonne tout autour de moi. Plus j'avance, plus la musique est forte. Soudain, j'aperçois des flashs lumineux au loin. J'avance prudemment en essayant de faire le moins de bruit possible. Quoique la musique est tellement forte que ça n'a pas grande importance. Je penche la tête et j'aperçois une centaine de jeunes en train de s'amuser, de danser, tous ensemble dans un grand espace souterrain. Pas d'inquiétude, c'est très courant dans les catacombes. C'est une sorte de fête clandestine. Ce sont juste des jeunes qui viennent s'amuser. Ils ne font rien de mal, malgré que ce soit interdit. Je ne vous conseille pas de le faire, car c'est très dangereux. Il y a déjà eu des effondrements et des éboulements. Enfin, me voilà rassuré, ce n'est rien de grave, je peux continuer mon exploration. Alors qu'il est plus d'une heure du matin, je continue de marcher sans savoir où je vais. Je suis même complètement perdu. Je n'ai pas de plan. C'est très irresponsable de ma part car c'est le meilleur moyen de se perdre et de ne jamais revenir à la surface. Un peu plus tard, je commence à entendre des chants lyriques, de plus en plus forts. Je me demande alors si je ne commence pas à devenir fou. Vous n'imaginez pas à quel point ces chants résonnent à travers les longs tunnels. C'est très angoissant. Je ne vous cache pas qu'à ce moment-là, j'étais très inquiet. Seulement éclairé avec ma lampe torche, je cherche d'où cela peut-il bien venir, mais je ne trouve rien. Je marche encore et encore, mais il n'y a personne d'autre que moi. C'est très étrange. J'ai pourtant l'impression qu'il y a comme une chorale à quelques dizaines de mètres d'ici. Un point de lumière attire mon attention. Je lève la tête et j'aperçois une petite ouverture dans le plafond. il semble y avoir quelque chose derrière. À ma gauche, une petite échelle en métal rouillé me permet d'y accéder. Je monte et je passe ma tête à travers la fente. Je découvre avec stupéfaction une église. Oui, vous avez bien entendu. Une église au milieu des catacombes, sous Paris. Elle est assez conséquente, aussi grande que celle que l'on peut trouver dans les petits villages français. Il fait complètement noir. Seule la lumière des bougies permet de voir quelque chose. J'éteins ma lampe torche pour ne pas me faire remarquer car je viens de voir un petit groupe d'une vingtaine de personnes vêtues de grandes robes blanches en train de chanter tous en chœur en direction d'une croix religieuse. Mais je découvre avec stupéfaction qu'il ne s'agit pas d'une église comme une autre, qu'il ne s'agit pas d'une messe ordinaire. En effet, la croix est à l'envers et recouverte d'une peinture rouge. Sans aucun doute, je suis en train d'assister à une messe satanique. Dimanche 8 août, 18h. Je suis à l'entrée de l'usine désaffectée dans un quartier du 10e arrondissement de Paris. Je m'apprête à faire une nouvelle exploration urbaine des plus terrifiantes. Il n'y a personne. Le quartier est désert. C'est d'ailleurs assez inquiétant. S'il m'arrive quelque chose, il n'y aura personne pour m'aider. Je suis toujours seul pour ce genre d'exploration. Personne n'est assez courageux pour m'accompagner. Je m'apprête à retourner dans les sous-sols de Paris, à explorer tous ces tunnels et lieux secrets interdits au public. Souvenez-vous, quand je suis allé explorer les catacombes, j'ai découvert beaucoup de choses très inquiétantes. Les prénoms d'enfants sur les murs, la présence d'une secte avec des rituels démoniaques et plus encore. Je vous invite à aller écouter les deux épisodes sur mon exploration dans les catacombes interdites de Paris pour plus de détails. Cette fois-ci, je m'apprête à explorer les égouts de Paris. Il y a encore quelques années, il y avait des circuits touristiques payants pour les visiter. Mais depuis peu de temps, l'accès est devenu soudainement interdit, du jour au lendemain. Pourquoi tout d'un coup plus personne n'a le droit de descendre là-bas? Vous ne trouvez pas ça étrange? Il doit se cacher des choses que l'on ne veut pas que l'on découvre. Et je ne croyais pas si bien dire. Avant même mon exploration, je me suis renseigné sur le dark web pour trouver des chemins d'accès ainsi qu'un plan des égouts de Paris. J'ai découvert qu'il y a plusieurs portes d'accès dans la capitale. Elles sont très difficiles à trouver car très secrètes. J'ai également appris qu'il y a des rondes de police organisées dans les sous-sols pour protéger les lieux. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien cacher de si important là-bas? Sur le dark web, il y a certaines rumeurs qui disent qu'il y aurait eu plusieurs enlèvements, crimes et toute autre atrocité qui serait la cause de la fermeture des lieux au public de manière définitive. Aujourd'hui, je suis aux portes de l'enfer et je m'apprête à pénétrer dans les sous-sols interdits et terrifiants de Paris. Êtes-vous prêt pour cette nouvelle exploration urbaine? J'ai pris avec moi un simple sac à dos, à manger, de l'eau, une lampe torche et mon téléphone portable. Je ne vous cache pas que toutes ces histoires d'enlèvement et de crimes me font froid dans le dos et me découragent à entrer à l'intérieur. Mais il faut que j'y aille. J'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses que l'on veut nous cacher là-dessous. J'entre à l'intérieur de l'usine désaffectée à travers un petit grillage ouvert. Je me faufile à l'intérieur et me dépêche de rentrer pour ne pas me faire repérer. L'accès aux égouts de Paris se situe quelque part dans cette usine désaffectée, mais je ne sais pas où exactement. Je n'ai pas réussi à trouver de plan précis sur le dark web. Juste des indications GPS ainsi que des explications imprécises. L'usine n'est pas très grande, je devrais m'en sortir. Après plusieurs dizaines de minutes de marche, je parviens enfin à trouver une plaque d'égout ouverte sur le sol. Je pointe ma lampe torche à l'intérieur et cela semble être la fameuse entrée pour accéder aux égouts de Paris. J'ai l'impression d'être en plein milieu d'un film d'horreur. La nuit commence à tomber progressivement. Je suis à l'intérieur d'une usine désaffectée, complètement seul. Vous imaginez la scène ? Il y a juste le bruit du vent qui souffle entre les tôles d'acier et je m'apprête à pénétrer dans un trou d'une profondeur d'une dizaine de mètres avec une seule lampe torche pour m'éclairer. Je lance mon sac à dos en premier, puis je descends par une petite échelle de secours et j'arrive enfin en bas de la fosse d'accès. Il fait très froid en bas. Mes pas résonnent à des centaines de mètres autour. À peine arrivé, il y a déjà une intersection avec quatre tunnels au choix. Je ne sais pas où aller. Je m'aventure donc complètement par hasard à l'intérieur des égouts de Paris. Au sol, il y a de grandes flaques d'eau, mais le chemin reste praticable. On dirait vraiment que je ne suis pas le seul à être déjà passé par ici et que l'endroit est très souvent fréquenté. D'ailleurs, sur le sol, on peut retrouver des débris de nourriture et des bouteilles vides. C'est certain, l'endroit doit être très souvent visité, J'espère ne pas me retrouver nez à nez avec quelqu'un d'autre. Je marche pendant des heures à travers des tunnels sans fin et sans intérêt particulier. Je ne découvre rien de si terrifiant que ça, à part le fait d'être à plusieurs mètres sous terre, complètement seul et dans le noir. Il doit être déjà au moins 22 heures, mais j'ai toute la nuit devant moi. Soudain, sur un mur, j'aperçois une flèche rouge qui semble indiquer une direction bien précise. Ne sachant pas où je vais, je décide de la suivre. Une dizaine de mètres plus loin, c'est une autre flèche qui se présente devant moi. Je continue mon chemin. Elles semblent toutes vouloir me diriger dans une direction bien précise. Je suis curieux de voir ce que je vais découvrir là-bas. Je marche encore et encore, dans le noir total, simplement éclairé par ma lampe torche. Petit à petit, je commence à entendre un bruit lointain qui résonne à travers les longs tunnels. Il semble venir de là où me dirigent les flèches. Plus je les suis, plus le bruit est important. On dirait un groupe de jeunes qui discutent et qui rigolent. J'avais vu juste. Il s'agit de 5 jeunes assis au sol avec des bouteilles à la main et de la musique. Rien de plus. Ils avaient l'air inoffensifs. Je décide de discuter un peu avec eux. Ils me demandent ce que je fais ici. Je leur explique mes intentions et mes diverses explorations urbaines que j'ai déjà faites. Ils me disent qu'ils sont des habitués des lieux car ils ne vivent pas très loin. Ils ont l'habitude de se retrouver ici les week-ends pour être tranquilles, au calme. Ils ont l'habitude de voir des personnes comme moi faire des explorations dans ces lieux interdits et très fascinants. Je leur demande s'ils ont des explications quant à la fermeture soudaine des sous-sols il y a quelques mois suite à des incidents qui sont restés secrets. À ce moment précis, ils se mettent à rigoler entre eux. J'ai eu l'impression d'avoir dit quelque chose qu'il ne fallait pas, d'avoir mis le doigt sur un sujet tabou. Ils me répondent qu'il se passe parfois des choses très étranges ici, qu'ils entendent régulièrement des bruits de cris stridents, d'appels au secours ou encore des rires démoniaques qui résonnent dans les longs couloirs. Ils n'ont pas l'air inquiets, ils semblent prendre ça à la rigolade. Pour eux, ce sont juste d'autres jeunes qui font des blagues et des légendes urbaines infondées. Quand je leur explique que j'ai découvert sur le dark web qu'il y aurait des enlèvements dans les sous-sols de Paris, ils rigolent et me disent que ce sont des foutaises. Ils n'ont jamais rien vu de tel. Cependant, ils me disent qu'ils ne sont jamais allés plus loin que là où ils sont, qu'il y a un endroit bien précis dans lequel personne n'ose jamais s'aventurer. On l'appelle la chambre mortuaire. C'est un nom assez macabre qui définit une partie des égouts de Paris qui a été le théâtre de plusieurs disparitions non élucidées à ce jour. Il y a encore quelques mois, c'était un circuit touristique très populaire, mais aujourd'hui, totalement interdit au public. C'est à quelques centaines de mètres d'ici. C'est d'ailleurs de là que semblent venir les cris et hurlements qu'entendent régulièrement le groupe de jeunes. Il me décourage d'y aller, car il y a beaucoup de légendes et de rumeurs à ce sujet. La chambre mortuaire des égouts de Paris est un lieu occulte très connu sur le dark web. Il se dit que tous ceux qui s'y aventurent n'en reviennent jamais. Je remercie le groupe de jeunes pour toutes les informations et leur souhaite une bonne soirée. En partant, je les entends chuchoter quelque chose entre eux. Je continue de m'enfoncer dans les longs couloirs des égouts en direction de la fameuse chambre mortuaire. Il fait de plus en plus froid et de plus en plus humide. Les tunnels semblent toujours plus détériorés et impraticables. Sur le sol, il y a des livres très vieux et complètement déchiquetés ainsi que plein de débris de verre. J'ai l'impression que je suis pas loin du but. La chambre mortuaire semble à quelques mètres de moi. Je ne croyais pas si bien dire. Sur le mur juste à ma droite, il est tagué en lettres rouges dégoulinantes « Yaya ». Vous vous souvenez? La station de métro interdite, les catacombes, la clinique du diable. Dans tous ces lieux que j'ai explorés, j'ai découvert ce même nom inscrit sur les murs. Vous ne vous souvenez vraiment pas de ce que cela signifie? Yaya est une figure occulte démoniaque qui idolâtre les membres de la secte du diable. Quand il y a son nom inscrit, cela indique que c'est un lieu de rassemblement de la secte. Ce sont tous des endroits maudits, secrets et terrifiants. Ce n'est pas très rassurant de voir son nom inscrit sur un mur. À n'importe quel moment, je peux tomber nez à nez avec l'un des membres de la secte ou autre chose encore plus inquiétant dont je n'ai pas encore fait la découverte. En tout cas, une chose est certaine, c'est que je suis au bon endroit. Je suis bel et bien dans la chambre mortuaire. Ça doit encore être un de ces lieux tenus secrets où ils font leurs réunions sataniques et où ils invoquent des démons pour parvenir à leur fin. Cette fois-ci, il n'y a aucun bruit, je n'entends rien. Il semble que je suis complètement seul ici. C'est pour cette raison que je décide de m'aventurer encore un peu plus loin à la découverte de cette chambre mortuaire pour peut-être trouver plus d'informations que je n'ai déjà. Il s'agit d'une succession de grandes salles constituées de vieilles pierres avec des noms et des dates gravés dessus. Je ne sais absolument pas à quoi ça correspond. C'est peut-être les membres de la secte avec leur date de naissance ou leur date d'adhésion, je ne sais pas. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a des dates dans le futur, comme 2034 par exemple. Il y a également de grandes bibliothèques avec plein de livres anciens. Je décide d'en ouvrir un au hasard et il s'agit du même livre que j'ai reçu chez moi il y a quelques semaines et que je vous ai raconté dans l'épisode précédent. C'est un livre de démonologie qui répertorie tous les démons et forces occultes. Il n'y a plus aucun doute, il doit se pratiquer des rituels auxquels je ne souhaiterais pas assister ici. Je ne vous cache pas que je suis en stress total depuis les 20 minutes que je suis dans cette salle. J'ai peur que quelqu'un arrive et me surprenne ici. Partout autour de moi, il y a des bougies éteintes avec de la cire qui a coulé tout autour. À part les bougies, les livres, les noms gravés dans les pierres au mur, je ne trouve rien d'autre de particulièrement intéressant. Mais c'est une preuve de plus que la secte existe bel et bien et qu'ils se réunissent ici régulièrement, tout comme dans les autres lieux que j'ai déjà découverts. Soudain, j'entends un bruit sourd et les murs se mettent à trembler. Cela dure environ 30 secondes, mais c'était les 30 secondes les plus longues de ma vie. J'ai eu l'impression que les tunnels allaient s'écrouler, que j'allais être enterré vivant. De la poussière me tombe dessus d'entre les pierres. Les livres tombent un par un des étagères en bois. Je décide de m'enfuir, sans savoir où je vais. Je m'aventure dans l'un des couloirs au hasard. Je cours sans savoir où je vais, sans bien réfléchir, juste dans l'intention de me sauver d'ici. Quelques minutes plus tard, j'ai enfin réussi à trouver une échelle qui me conduit vers une bouche d'égout de sortie. Je suis arrivé en plein milieu d'une rue déserte, quelque part dans Paris, mais je ne sais pas où. Quand j'ai voulu sortir mon téléphone pour regarder l'heure, je me suis rendu compte que je l'avais oublié à l'intérieur des égouts de Paris. J'ai dû le faire tomber dans la chambre mortuaire pendant les éboulements. Trop tard. Je ne vais pas retourner là-bas et risquer ma vie. Il doit être au moins 1h du matin. Il est temps que je rentre chez moi. Mais sans savoir où je suis et sans le GPS de mon téléphone, ça va être compliqué. Attention, une planche de Ouija n'est pas un jeu. Quand vous appelez un esprit, vous appelez tous les esprits et vous ne savez pas qui peut vous répondre. La planche de Ouija doit être utilisée avec précaution. Comme vous le savez, j'ai un attrait particulier pour l'univers du paranormal. Tout d'abord, je baigne dedans depuis tout petit, comme je vous l'ai raconté dans les précédents épisodes. J'ai déjà vécu beaucoup d'expériences troublantes. De plus, ma mère pratique la sorcellerie. J'ai donc été souvent témoin de manifestations très étranges. Pour moi, le monde du paranormal et des esprits n'est pas un monde à part. C'est une réalité que j'ai acceptée et qui ne me fait plus peur. J'ai appris à vivre avec l'idée qu'un autre monde existe, que nous ne sommes pas seuls, et que ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Nous n'avons tout simplement pas encore développé les compétences pour communiquer avec cet univers parallèle. Depuis quelque temps, j'ai une planche de Ouija à la maison, bien que ma mère m'a toujours déconseillé d'en avoir une. Il n'est en effet pas recommandé d'utiliser ce genre d'accessoire, car il y a un risque d'attirer des entités indésirables. Pratiquer le Ouija en étant novice peut avoir des conséquences dramatiques pour tout le reste de votre vie et celle de votre entourage. Malgré cet avertissement, je n'ai pas pu m'empêcher d'en acheter une. Au début, c'était simplement décoratif. Je l'avais laissée sur la table du salon et elle servait de plateau. Puis un soir, avec des amis, nous avons voulu essayer de s'en servir. Sans vraiment savoir ce que l'on faisait, nous nous sommes assis en cercle autour de la table du salon. Nous avons éteint toutes les lumières et nous avons commencé à invoquer les esprits. Nous étions tous novices avec le Ouija. Nous ne savions pas ce que nous faisions. Et si j'avais su, je ne l'aurais jamais fait. Mes amis ne le prenaient pas au sérieux, alors que moi si. Je savais très bien qu'il y avait un risque à ce genre de pratique et que ce n'était pas recommandé. Malgré mes avertissements, mes amis avaient très envie de le faire. Donc nous l'avons fait. Nous avons à plusieurs reprises invoqué les esprits, récité des incantations, mais aucun résultat. Absolument rien, aucune manifestation. Mes amis étaient déçus. Je ne vous cache pas que j'étais rassuré. Je m'étais dit que ça n'avait pas marché et que c'était peut-être des foutaises. Nous en sommes restés là, j'ai rangé la planche dans un placard et je ne m'en suis plus jamais servi. Quelques semaines plus tard, en faisant du ménage, je m'aperçois que la planche a disparu. Elle n'est plus rangée dans le placard là où je l'avais mise la dernière fois. Comme vous le savez, je vis seul et il est impossible que quelqu'un d'autre l'ait déplacée. Intrigué, je me mets à la chercher partout, mais sans succès. Ce n'est que quelques jours plus tard que j'ai eu un choc. En me réveillant le matin, j'aperçois la planche posée sur la table du salon. C'est tout simplement impossible. Ce n'est pas moi qui l'ai déplacée et j'étais seul à la maison. La planche disparaît pendant plusieurs jours et réapparaît miraculeusement sur la table du salon. C'est avec ce genre d'expérience que vous êtes obligé de croire en l'existence d'un monde parallèle. J'étais d'abord désemparé, bien qu'habitué à ce genre de manifestation. Ce que j'ai redouté, c'est l'éventuelle présence d'un esprit démoniaque. Car lors de la séance de Ouija que nous avons faite avec mes amis, je ne sais pas qui en a pu appeler et qui a bien pu se manifester. C'est ça qui m'inquiète. Qui peut bien être là? Qui a bien pu déplacer la planche? Quelle entité a bien pu répondre à notre appel? Ce n'était que le début. Après avoir de nouveau rangé la planche dans un placard, le lendemain, elle disparaît de nouveau et réapparaît cette fois-ci dans la cuisine. Quelques jours plus tard, elle apparaît sur le lit le matin au réveil. C'était assez troublant et ça ressemblait à une vieille blague. Mais pourtant, ça n'en était pas une. C'était bien la réalité. Il y a forcément une signification derrière cette manifestation étrange. Mais laquelle ? J'ai alors pris mon courage à deux mains et j'ai décidé d'utiliser la planche pour obtenir des réponses à mes questions. Après tout, nous avons commencé le travail. Il faut maintenant le terminer. Peut-être que je vais savoir quelle entité nous avons ramenée dans notre monde et comment la faire partir. Un soir où j'étais seul à la maison, je me suis mis dans le noir total. J'ai allumé quelques bougies et installé la planche de Ouija sur la table. J'avais auparavant regardé des vidéos pour savoir comment l'utiliser. J'ai donc récité quelques formules, mais aucun résultat. Personne ne répond. Personne ne se manifeste. J'insiste, je continue pendant des heures. Je ne vois pas le temps passer. Quand soudain, un livre tombe de la bibliothèque. Bien évidemment, je sursaute, mais je suis content d'avoir une manifestation. C'est peut-être le hasard, ou bien alors une réponse à mon appel. Je me lève pour ramasser le livre, et en le prenant, une sueur froide me traverse tout le corps. Il s'agit du livre de démonologie que j'ai mystérieusement reçu chez moi il y a quelques semaines. Souvenez-vous, je vous en ai parlé dans le premier épisode de la saison 2. Est-ce un signe? Est-ce que ça signifie qu'il y a une présence démoniaque ici? Je ne pense pas que ça soit le hasard. Ce n'est pas possible. Curieux et en recherche de réponses, je récupère le livre et m'assois dans le canapé avec. Je passe toute la nuit à le regarder, en large et en travers. Je regarde toutes les pages les unes après les autres avec une grande attention. C'est une succession de démons, d'incantations démoniaques, de rituels de magie noire. C'est assez troublant et terrifiant. Mais à qui ce livre peut-il bien être destiné? Et pourquoi je l'ai reçu chez moi il y a quelques semaines? Mais encore, pourquoi est-il tombé au moment où je me servais de la planche de Ouija? Plein de questions auxquelles je n'ai toujours pas de réponse. Enfin, pas pour longtemps. Selon les légendes urbaines que l'on peut trouver sur Internet, ce village a été déserté suite au terrible incendie qui a ravagé l'ancien hôpital psychiatrique. En effet, tous les résidents de la clinique se seraient enfuis dans la nature et n'auraient jamais été retrouvés. Comme vous le savez déjà, j'avais découvert que cet hôpital psychiatrique était très particulier. Tous les patients étaient victimes d'un culte pour un démon qui se nomme Yaya. Les membres de la direction de l'hôpital leur faisaient un véritable lavage de cerveau une fois qu'ils avaient intégré cette clinique si particulière. Personne n'en ressortait jamais. C'est d'ailleurs à ce moment-là que se serait reformée la tristement célèbre secte du diable. Dans ce nouvel épisode totalement inédit, je vais vous raconter mon exploration très troublante dans ce village abandonné. Selon les informations que l'on trouve sur Internet, c'est suite à un incendie dont l'origine est toujours restée inconnue que tous les résidents se seraient enfuis de l'hôpital et n'auraient jamais été retrouvés. Aucun corps n'a été découvert à l'intérieur. Cela veut donc dire qu'ils se sont échappés dans la nature. Une enquête de police a été ouverte, dans le secret le plus total, car comme vous l'avez compris, le sujet est très sensible. Selon une enquête interne, il a été démontré que dans cette clinique, il y avait des pratiques occultes illégales et très inquiétantes. À tel point que lorsque des condamnations ont été prononcées et qu'un procès allait se tenir pour faire fermer cette clinique de l'enfer, l'incendie s'est propagé quelques jours plus tard, comme par hasard. Et c'est à partir de ce jour que nous n'avons plus jamais eu aucune trace de toutes les personnes qui étaient à l'intérieur de cette clinique. Mais que sont-ils devenus? Où sont-ils partis? Où se cachent-ils? Sont-ils véritablement à l'origine de la secte du diable? L'enquête policière a complètement été rendue secrète, comme d'ailleurs l'existence de cette fameuse clinique. Il est très difficile de trouver des informations. Il faut aller sur le dark web pour pouvoir trouver des archives. tout a été occulté. L'enquête policière, l'existence de la clinique, le culte satanique qui s'est déroulé. Parmi les informations que j'ai découvertes sur le dark web, il se dit que suite à l'incendie et à l'évasion des résidents de la clinique, le village voisin a complètement été évacué en une nuit et dans le plus grand secret. C'est une mesure de précaution qui a été prise urgemment par les forces de l'ordre pour protéger la population de ce petit village de quelques centaines d'habitants. Tout un village évacué en une nuit. Vous imaginez ? Mais pourquoi ? Que s'est-il passé ? Quel était le risque ? Il y a quelques mois, je suis allé en exploration dans ce village fantôme. Comme vous pouvez l'imaginer, je n'étais pas forcément rassuré, car j'avais entre autres lu qu'il pouvait y avoir des anciens résidents de la clinique qui s'y cachent encore et qui y vivent dans le plus grand secret. J'ai donc pris toutes les précautions nécessaires. Je n'y suis pas allé seul. Je me suis entouré de deux amis, sac à dos, lampe torche, nourriture. Nous étions prêts à y passer plusieurs nuits. L'emplacement de ce village abandonné a été très compliqué à trouver, car il n'existe officiellement sur aucune carte et il n'est répertorié nulle part sur Internet. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Il a fallu explorer le dark web en profondeur et pendant de longues semaines pour pouvoir trouver des informations quant à sa localisation exacte. Nous y sommes allés en voiture en empruntant un petit chemin de campagne. Nous avons traversé une longue forêt en fin de journée, alors que la nuit commençait doucement à tomber. Je ne vais pas vous révéler l'itinéraire ou le moyen de vous y rendre tout simplement pour des questions de sécurité. Car comme vous allez le voir, nous avons pris de très gros risques à aller là-bas. Après plus d'une heure de route à travers des chemins très étroits, nous sommes arrivés face à un portail de 3 mètres de haut avec écrit « Zone militaire, défense d'entrée ». Nous avons alors décidé de garer la voiture ici et de continuer le chemin à pied. Nous savions que ça allait être sportif. Du barbelé était posé en haut du portail. Il semblait impossible de le traverser, mais nous avions prévu le coup. Une couverture épaisse et le tour est joué. Nous montons sur le capot de la voiture et réussissons tous les trois à passer la clôture. Enfin, de l'autre côté, nous devons encore marcher quelques centaines de mètres avant de découvrir la première habitation. Enfin, ce qu'il en reste. Car oui, cela fait plusieurs dizaines d'années que ce village est abandonné, et ça se voit. La majorité des maisons sont en ruine, parfois sans mur. Il y a des tags un peu partout. Il y a même une église. Enfin, ce qu'il en reste. C'est vraiment un très petit village. Il y a quelques centaines de maisons organisées en cercle autour d'une place centrale avec cette fameuse église. D'après les informations que je me suis fournies, il y avait seulement quelques centaines d'habitants dans ce petit village avant leur évacuation d'urgence. À première vue, il n'y a plus aucune trace de vie ici. Nous sommes seuls. Enfin, c'était ce que nous pensions. La nuit commence à tomber. Avant de commencer l'exploration proprement dite, nous décidons de s'asseoir dans un coin et de manger avant de se lancer dans l'aventure. Au bout de 10 minutes seulement, nous entendons un cri qui semble venir de loin. Il résonne à travers les petites rues étroites autour de nous. Sur le moment, ça nous a glacé le sang, car nous sommes censés être seuls ici, en plein milieu d'une forêt. Nous décidons de raccourcir le repas et de nous lancer dans l'exploration, avec beaucoup de prudence. Armés de nos lampes torches, nous nous aventurons dans les petites rues complètement envahies par les mauvaises herbes. Nous ne remarquons aucune présence. Nous avons l'air d'être bien seuls. Nous nous baladons pendant au moins une heure sans rien remarquer de bien particulier, à part toutes ces maisons abandonnées et délabrées. Cependant, nous ressentons tous une sensation très étrange. Nous avons l'impression d'être surveillés. J'ai déjà exploré des villes abandonnées, mais elles n'étaient pas comme celle-ci. Il y a une ambiance très étrange ici. En étant un peu plus attentif à notre environnement, je remarque des tags sur les murs. Il y a toujours ces fameux prénoms d'enfants dont je vous avais déjà parlé et que j'avais déjà trouvé dans les catacombes interdites de Paris. On distingue également d'étranges statues et des suspensions dans les arbres qui ressemblent à des objets occultes qui servent à pratiquer la magie noire. Progressivement, je commence à me convaincre qu'il y a bien quelque chose de bizarre ici. Et je me demande s'il n'y a pas un rapport avec la secte du diable. Petit à petit, les indices se multiplient. Nous avons l'impression de ne pas être seuls, d'être épiés et surveillés. Au coin d'une rue sur la droite, je vois un faisceau lumineux. Juste le temps de prévenir mes amis et il disparaît. On aurait dit celui d'une lampe torche, mais pas les nôtres. Probablement celle de quelqu'un d'autre. Nous ne sommes sûrement pas seuls, finalement. Discrètement, nous nous dirigeons vers l'endroit où j'ai vu ce faisceau lumineux. Et bien évidemment, il n'y avait personne. Soudainement, nous entendons des personnes rigoler un peu plus loin derrière nous. Nous nous retournons et nous apercevons trois silhouettes dans l'obscurité. Elles étaient de très grande taille et semblaient nous fixer. Hésitant, je prends le risque de lancer un bonjour. À ce moment, les trois silhouettes disparaissent en courant dans des directions opposées. C'est très étrange comme comportement. On dirait des enfants qui s'amusent, mais ils avaient l'air de mesurer au moins 3 mètres de haut, un peu grand pour des enfants. À ce moment-là, il fait complètement nuit. Nous sommes seulement éclairés avec nos lampes torches. Et pour ne pas vous mentir, nous commençons à avoir vraiment peur. Si nous nous faisons agresser ici, qui va venir nous sauver? Va-t-on nous retrouver? Bien évidemment, inutile de vous préciser qu'il n'y a pas de réseau. Nous sommes en plein milieu d'un village fantôme isolé au beau milieu de la forêt. Il ne fallait s'en douter. Nous continuons d'entendre des rires résonner à droite et à gauche autour de nous, mais sans voir la moindre personne. Nous avions prévu de rester quelques jours ici avec notre matériel de camping, mais nous commençons à regretter cette décision et à vouloir anticiper notre départ. J'ai vraiment le sentiment qu'il se passe quelque chose de pas normal ici et que l'on cherche à nous faire fuir. L'urbex a ses limites et je pense que nous les avons atteintes. C'est alors que nous décidons de repartir. Mais le problème, c'est que nous sommes complètement perdus au milieu de toutes ces maisons. Nous ne savons pas dans quel sens nous diriger pour retrouver la voiture. Nous prenons une direction par hasard. Nous marchons pendant plus de 15 minutes sans succès. C'est un fait. Nous sommes complètement perdus. Bon, ce n'est pas non plus un village très grand, donc ça ne devrait pas durer très longtemps. Mais il fait nuit, ça ne facilite pas les choses. Nous continuons à tourner autour des maisons et nous tombons sur une voiture. Mais ce n'était pas la nôtre. Les phares sont allumés. Nous décidons de nous approcher. Il semble y avoir quelqu'un à l'intérieur. Quand soudain, nous découvrons avec stupéfaction qu'il s'agit d'une voiture de police. Deux agents en sortent et nous demandent ce que nous faisons ici. Nous leur expliquons que nous sommes seulement trois jeunes avides de sensations fortes et que nous faisons une exploration urbaine à destination d'Internet. Ils nous ont répondu que nous n'avons rien à faire ici et que le lieu est complètement interdit. Par ailleurs, ils nous déconseillent de parler de notre exploration sur Internet. Ils me disent que pour notre propre sécurité, il vaut mieux que l'on reste discret quant à l'existence de ce lieu que l'on n'aurait jamais dû venir ici. Nous montons tous les trois à l'arrière de la voiture et ils nous conduisent au grand portail d'entrée où nous sommes arrivés un peu plus tôt. Une dernière fois, ils nous avertissent de ne surtout pas parler à personne de ce que nous venons de voir et de l'existence de ce lieu. Ils nous expliquent que ce sont pour des raisons de sécurité, car il est très dangereux de venir s'aventurer ici, sans nous en dire plus pour autant. Nous remontons dans la voiture et nous repartons d'ici. Sur le trajet, j'ai plein de questions qui me trottent en tête. Pourquoi ce lieu est-il gardé si secret? Pourquoi est-il aussi protégé? À tel point qu'il y a des rondes de police à l'intérieur? Pourquoi est-il interdit d'en parler? Que se passe-t-il vraiment ici? J'ai compris qu'il y avait des choses très étranges. Les tags sur les murs, les rires autour de nous, les trois silhouettes que nous avons croisées. Si ce lieu est si secret, ce n'est pas par hasard. C'est certain.